Alors, dans cette matinée consacrée donc, disons, au rôle des médias, d'information et au rôle des journalistes dans à la fois la fabrique de l'histoire et dans la construction des mémoires, on a souhaité inviter des journalistes qui, pour nous, membres du comité d'organisation, ont joué un rôle important dans la connaissance historique de l'événement ou de certaines de ses conséquences, et aussi finalement dans la médiatisation, ou plutôt peut-être la médiation de ou des connaissances sur l'événement en lui-même. Alors, bon, bien sûr, il y a eu des débats entre nous, il y avait pas mal de plusieurs choix qui étaient possibles, et on est très heureux d'accueillir aujourd'hui Laure de Vulpian. Donc, qui est journaliste à France Culture, spécialiste notamment des affaires juridiques et qui s'intéresse depuis déjà pas mal d'années à la question du Rwanda à travers les procès, notamment le procès en Belgique en 2001, mais je crois que vous reviendrez sur cet itinéraire, et qui a publié deux ouvrages importants, et vous nous parlez notamment du deuxième, intitulé Silence turquoise, Rwanda 92-94, responsabilité de l'État français dans le génocide des Tutsis. Donc un gros travail d'enquête qui va nous permettre de questionner le travail d'enquête du journaliste a posteriori, plusieurs années après les faits. Et puis, dans un premier temps, nous sommes aussi très heureux d'accueillir Jean-Philippe Seppi, avec un positionnement un peu différent, puisque Jean-Philippe Seppi était présent à Kigali, au Rwanda, en 1994, qu'il a publié plusieurs papiers très importants, dont un est dans le livret que vous avez dû prendre normalement à l'entrée. Et c'est un papier qui est notamment important parce que dès le 11 avril 1994, il identifie parfaitement les responsabilités des massacres et la nature de ces massacres, en recourant, même si c'est sous la forme interrogative, au terme de génocide. Et là aussi, ça va nous permettre de questionner le travail d'enquête sur le terrain en avril 1994, que pouvions-nous déjà savoir, connaître des faits, comment pouvait-on enquêter? Et puis, je crois que vous allez aussi nous dire comment vous êtes revenu sur le sujet a posteriori. Donc voilà, je vous laisse la parole et je vous remercie beaucoup.
Merci beaucoup, François Robinet. Je vous remercie particulièrement de m'avoir invité parce que vous savez, la reconnaissance du travail de journaliste est quelque chose d'important pour nous, que nous sommes emportés dans le tourbillon de ces tragédies. La reconnaissance de notre travail, mais également la vérification de notre travail, c'est important, une vérification permanente sur laquelle maintenant nous avons 20 ans, à savoir vérifier si nous avons contribué ou non à écrire cette histoire et quelle était la valeur de cette contribution. Je m'excuse pour mes amis rwandais dans la salle, mais c'est vrai que nous aussi, journalistes, reporters qui avons couvert cette horreur, sommes quelque part des rescapés également, à bien plus petite échelle. Ça n'est pas comparable, bien sûr, mais on a aussi vécu des traumatismes, des remises en doute profondes de notre métier, de notre rôle. Alors, des lieux de parole comme ça et d'échange sont particulièrement précieux, je dirais qu'ils participent aussi de notre guérison à nous, journalistes. Alors, vous m'avez, François, laissé un cadre assez large pour cette intervention. Vous m'avez demandé de m'interroger avec vous sur les conditions dans lesquelles j'ai mené mon travail au Rwanda, comment je suis intervenu également dans les années qui ont suivi cet événement. Je vais essayer d'être court. J'ai envie de partager avec vous mes interrogations quant à nos responsabilités, en effet, d'historiens du contemporain. Récemment, relativement récemment, le Rwanda a suscité en moi pas mal d'interrogations profondes sur les enjeux de mon travail, sur la façon, la malfaçon ou la bienfaçon, peut-être, j'ai envie de dire, de rapporter ces cataclysmes que nous avons suivis, et puis les conséquences que nos récits médiatiques peuvent avoir. Alors, si vous le permettez, je vais commencer par une expérience. En 2011, sauf erreur de ma part, j'ai reçu un coup de fil d'un inspecteur du Bundeskriminalamt, le BKA allemand, qui me demandait si j'accepterais de déposer dans le cadre d'une instruction en Allemagne pour génocide menée contre un Rwandais, son nom vous êtes peut-être familier, il s'appelait Onesphore Wabukombe. J'ai donc été reçu sur un mode très conspiratif à la frontière allemande, dans un commissariat. Et cet inspecteur me présente un article que j'avais écrit pour Libération en avril 1994. Nous sommes donc 15 ans après les faits. Je ne vais pas dire que j'avais oublié cet article, on n'oublie pas comme ça, mais c'était assez vertigineux. Et cet article relatait le massacre d'une paroisse, celle de Kiziguro, par des soldats et des miliciens interahamwe. Alors, en redescendant avec les troupes du FPR sur Kigali, j'avais été témoin du sauvetage d'une dizaine de rescapés qui avaient été jetés vivants dans un puits et achevés à la grenade. Au sommet de ce puits, ce puits contenant environ 800 cadavres. Un journal ougandais avec lequel j'étais a relaté cette tragédie, j'étais pris en photo sur place, et les inspecteurs m'informent donc que Onesphore Rwabukombe est accusé de ce massacre. Alors quelques mois plus tard, je suis appelé comme témoin devant la haute cour de Francfort, où un procès va se tenir. Il y a eu 3 ans d'enquête, très complexe pour cette affaire. L'accusé risque donc la perpétuité. C'est la première fois depuis Nuremberg que l'Allemagne tient un procès pour génocide, pour des faits d'une telle gravité. Il y a eu quelques procès dans le cadre de l'ex-Yougoslavie en Allemagne, mais pas pour des faits aussi graves. Alors, imaginez-vous, donc, le juge, le procureur, la défense me demandent de produire mes notes de l'époque, de 1994, devant la cour. C'est assez impressionnant. On me demande, par exemple, la distance exacte entre la fosse que nous avons découverte et l'église. On me demande comment je suis arrivé au chiffre de 800 cadavres. J'ai l'occasion de préciser, par exemple, une chose importante à laquelle je tiens comme journaliste, c'est que pour éviter que les services du FPR qui nous encadrent dans ces moments-là ne viennent parasiter le premier récit que j'ai fait de ces rescapés que nous avons sortis de cette fosse et que j'ai enregistré pour la radio, j'ai écarté ces agents du FPR. Vous savez, on a toujours un ou deux lieutenants sur le dos quand on travaille dans ces régions-là. Je les ai écartés à peine nous avions sorti de leur trou. C'est malheureux. C'est important, ça m'a permis de faire vraiment un témoignage, à mon avis, de première main. Alors, je pense que j'étais qu'un témoin parmi les 120 autres témoins appelés devant la cour de Francfort. Je pense que mon témoignage a compté, on me l'a dit, particulièrement parce que j'étais non-rwandais. Mon témoignage avait une dimension de quasi-police scientifique non-partisane. Rwabukombe a été finalement condamné à 14 ans de réclusion. Le procureur réclamait la perpétuité, je vous le rappelle. Rwabukombe a fait appel. Cette expérience m'a profondément fait réfléchir, 15 ans plus tard, à cette responsabilité de journaliste, une responsabilité dont je n'avais évidemment pas forcément la pleine conscience au moment de la couverture des faits. Le fait que j'ai pris des notes précises, que j'ai vérifié dans la mesure du possible mes informations, que j'ai permis aux témoins de s'exprimer dans l'urgence, à l'écart de toute pression, que j'ai également tenté de retrouver les auteurs de ce massacre, puisque j'ai beaucoup travaillé également dans les camps de réfugiés de Tanzanie, et bien tout ça, j'ai dû en rendre compte 15 ans plus tard, quand même dans une affaire où il s'agissait de condamner un homme à la perpétuité peut-être. Les Allemands, je dois dire, ont fait très bien les choses. Je ne sais pas si les Français l'ont fait aussi bien dans le cas de Pascal Sibikangwa. Ils ont donc envoyé des policiers du BK au Rwanda, sur les lieux. Ils ont essayé de retrouver le photographe du Monitor qui avait photographié cette séquence-là. Quant à moi, je me suis rappelé que ce que j'avais fait, c'était essentiellement de travailler selon les méthodes que j'avais apprises comme localier dans mes premières années de journalisme, m'appuyant sur la mise en doute perpétuelle, la vérification dans la mesure du possible et la restitution d'une réalité mesurable pour le journaliste dans le temps imparti, dans les conditions imparties. Alors, ce que j'ai découvert dans cette affaire, c'est vraiment que le journaliste ne peut pas, a posteriori, je suppose que les gens qui ont couvert l'Holocauste juif, mes collègues journalistes ont dû vivre la même expérience, on ne peut pas juste se prévaloir du statut d'observateur. C'est un statut très confortable, mais lorsque l'on couvre de graves violations des droits humains, eh bien, ça n'est pas suffisant. Un jour, nous serons comptables devant l'histoire, nous, petits journalistes, et nous en devenons même des acteurs. Ainsi, très rapidement, en 1995, les inspecteurs des Nations Unies sont rapidement venus me voir. Ils ont collecté mon matériel, des cassettes vidéo, entre autres, cassettes audio, photocopiées des notes. Malheureusement, les Nations Unies ont perdu, il faut le dire. Ont perdu une partie de ce matériel, ce que je trouve complètement incroyable. En Suisse, en 1999, j'étais appelé également à témoigner devant un tribunal militaire, dans le cas de la. Qui a condamné, donc dans un premier temps, à perpétuité, Fulgence Nyomtese, au titre du code pénal militaire suisse. C'est quand même assez important. L'ancien maire de Mouchoubati, qui était coupable d'un nombre indéterminé d'assassinats de Tutsi sur sa commune. La peine a ensuite été réduite à 14 ans. Récemment, j'ai également été auditionné dans le cadre du procès de Pascal Sibikangwa. À quel titre? Je l'avais retrouvé, j'étais correspondant à Nairobi, je l'avais retrouvé, Pascal Sibikangwa, dans sa fuite. J'ai identifié l'endroit où il vivait à Nairobi cette année-là. Vous le savez, il était condamné à 25 ans de réclusion ici à Paris. Alors, si je vous dis tout cela, ce n'est pas du tout pour mettre mon rôle de journaliste en avant, mais c'est vraiment pour souligner une fois encore la responsabilité accrue du journaliste dans ces cas-là et au regard du jugement de l'histoire. Alors, la question, est-ce que nous sommes dignes de cette immense responsabilité qui peut donc envoyer des hommes en prison, à perpétuité même, Il y a des choses évidemment pas très aimables et tout à fait justifiées qui ont été adressées à l'égard des journalistes. Vous avez eu la gentillesse de dire que mon travail était remarquable, je vous remercie. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec vous que cette presse, cette télévision dans l'affaire du Rwanda a été bien peu crédible. Alors est-ce qu'il est raisonnable de la convoquer au tribunal de l'histoire? C'est la question. Que vaut notre travail? Quel crédit lui donner? Alors moi, je me suis dit que c'est de ça dont on allait parler peut-être aujourd'hui et je suis arrivé à une conclusion assez simple. C'est que 20 ans après les faits, il est possible maintenant d'opérer un bilan sur le travail que nous avons fait, un travail quasi scientifique. Ces expériences judiciaires que j'ai vécues m'ont permis de voir que dans le fond, le droit, les hommes de loi, les policiers mènent une espèce de contre-enquête sur notre travail, hein. Ce qu'on pourrait appeler aussi un contrôle qualité dans les milieux industriels. C'est un travail qui est bien fait, je crois, qui est fait sans préjugés ni faveur. Et je crois qu'en effet, quand justice est faite, sur la base de faits rapportés et vérifiés, sur la base de cette contre-enquête indépendante, de ce contrôle de qualité, eh bien finalement, j'ai le sentiment que nous n'avons pas si mal travaillé, en tout cas en ce qui me concerne. Il faut dire aussi qu'il est rare que le sort d'un homme ou d'une femme ne repose que sur le travail ou le seul témoignage d'un journaliste. Mais enfin, en ce qui concerne les journalistes d'investigation, et je me revendique de cette race un peu à part, qui pratique un journalisme de détail et de précision, j'enseigne le journalisme d'investigation à mes étudiants et j'aime plutôt ce terme de détail et de précision, je dois dire qu'avec du recul, je crois qu'au plus près de ma conscience, j'ai fait ce travail et qu'après tout, cette contre-enquête sur mon travail m'a plutôt rassuré. J'ai entendu tout à l'heure le terme de naufrage du journalisme. Je vois bien dans quel contexte on l'affirme. Je ne partage pas tout à fait cet avis. Je pense que le naufrage du journalisme, c'est plutôt le naufrage. Dans le cas de Jean Hatzfeld, Jean a constaté l'impuissance du journalisme à restituer l'intensité de ce qui s'est passé. Du point de vue des faits, je pense que le rôle du journaliste, quand il se cantonne dans ce rôle-là, est plutôt justifié. Si vous avez peut-être lu mes productions, il n'a pas été contesté que j'ai bien compté 400 cadavres dans la cour centrale de l'hôpital de Kigali le 10 avril. J'ai bien été sous couverture du CICR effectuer la dernière collecte de cadavres en ville de Kigali. Tout ce que j'ai rapporté avec mon collègue Jean Hélène, aujourd'hui défunt, est bien exact. J'ai trouvé moi-même dans la villa du président Habyarimana, sous la table de nuit de la chambre à coucher, plusieurs rouleaux de fax estampillés secrets, qui émanait de l'ambassade du Rwanda à Berne, qui confirmait les activités de renseignement et les liens entre l'ex-capitaine Baril et ses services, une affaire qui a déclenché une crise gouvernementale en Suisse, hein, un livre blanc. J'étais sur le crash de l'avion, j'ai recueilli des restes de documents, des cartes de visite, j'ai tenté de comprendre l'enchaînement de ces événements. Bref, ce que je veux dire, c'est que ce savoir-faire que nous cultivons dans nos petits quotidiens de province, dans nos petites télévisions, nos radiotélévisions, eh bien, il peut se déployer utilement lorsque le cours de l'histoire est engagé. 20 ans après mon travail, 20 ans de contre-enquête, démontrent, je crois, que ce travail a une certaine valeur, même s'il est bien sûr très inégal. Alors il y a un point sur lequel François, évidemment, voulait m'interpeller, et j'ai souvent été pris à partie, c'est cette phrase que j'ai écrite donc, dans mon premier papier, du 11 avril 94, pardon. J'écris qu'avant que les troupes du FPR n'atteignent la capitale, le génocide des Tutsis de Kigali sera probablement terminé. Nous étions, je vous le rappelle, à ce moment-là, à près de 10 000 morts en 3 jours, selon le CICR. Et j'ai découvert bien après que l'usage de ce mot génocide avait suscité la polémique, que j'avais été le premier à le lâcher, en me fondant sur 3 jours de spectacle et de récits d'horreur qui étaient clairement ciblés sur une ethnie. Alors on m'a dit appréciation trop rapide, on m'a dit non vérifié, juridiquement pas clair, risque d'instrumentalisation. Génocide, c'est vrai, ça n'est pas un vain mot, vous le savez, il est lourd de sens, de conséquences. Alors, qu'est-ce que j'ai répondu? J'ai toujours répondu que ce mot m'était venu d'une source. Il avait été lâché par une source que j'ai rencontrée très rapidement. C'est Philippe Gaillard, représentant du CICR au Rwanda. Vous savez, le CICR en Suisse, c'est une institution qu'on vénère, hein, c'est une institution qu'on respecte énormément, trop peut-être, en particulier pour sa prudence et une forme de discrétion quasi obsessionnelle. Que Philippe Gaillard me lâche ce mot en étant informé minute après minute des massacres dans tout le pays m'a convaincu que je n'avais aucune hésitation à voir, à l'écrire. J'ai toujours plaidé également que moi, j'ai utilisé ce mot et je remercie vraiment Libération de ne pas l'avoir censuré ce jour-là. J'ai utilisé ce mot tel qu'il est compris par l'opinion publique. Je n'avais pas, c'est vrai, avec moi, un répertoire de droit international, c'est au sens où il est compris par l'opinion publique. Alors j'ai peut-être été imprudent de ne pas m'être référé au droit international en écrivant ce papier. J'aurais été bien mal pris, en effet, s'il s'était avéré au final que nous avions juste face à nous des massacres de grande ampleur. L'histoire m'a malheureusement donné réponse. Alors je vais conclure, peut-être sur le rôle quand même du journaliste et son imprudence, le droit qu'il lui donnait, à mon avis, de prendre des risques. Récemment, j'étais au Peace Institute à La Haye, qui organisait une confrontation avec le musée de l'Holocauste entre les acteurs de 1994 et ceux qui produisaient des décisions, les ambassadeurs, les fonctionnaires, les militaires, les politiques. Et nous étions quelques-uns, ONG, journalistes, à avoir osé le mot génocide. Alors, on a tous été confrontés à ces documents confidentiels de l'époque qui ont donc été déclassifiés. C'était l'occasion pour moi de constater à quel point, justement, les arguties juridiques, les contradictions politiques, géopolitiques, les préoccupations électoralistes, pécuniaires, ont vraiment obscurci la capacité de décision et surtout le sens de l'histoire et des responsabilités de ses dirigeants. À ce titre, je pense, je suis convaincu qu'il incombe aux journalistes et aux médias de prendre le risque de se tromper lorsqu'il s'agit de secouer les consciences et d'éviter le massacre de millions de gens. Tout ce que nous avons à y perdre, nous, c'est un peu de réputation et je crois qu'on peut s'en remettre. Voilà, merci.
Bien, merci beaucoup avec une intervention qui est riche et pose beaucoup de questions. Il y en a deux qui me viennent, mais c'est juste pour stimuler les personnes qui nous écoutent sur le positionnement des journalistes d'investigation, peut-être par rapport aux éditorialistes, par rapport aux responsables de journaux, par rapport à des gens qui vont séjourner une ou deux journées sur le terrain et finalement être très approximatif. Et puis vous avez cité le travail de Jean-Hélène, alors un travail effectivement de très bon papier, mais avec aussi certains papiers qui respectent la stricte neutralité des sources, qui accordent une forte légitimité à l'ensemble des acteurs et qui du coup se trouvent aussi parfois à relayer une parole qui a été déconstruite par d'autres journalistes au même moment. Donc voilà, c'est deux pistes que je vous livre et j'espère qu'on aura l'occasion d'en rediscuter. Laure de Vulpian, je vous laisse également la parole pour une quinzaine de minutes pour nous présenter. Je pense que vous allez vous concentrer sur Silence Turquoise, mais aussi sur votre itinéraire. Merci beaucoup.
Merci à vous. Bonjour. Donc je vais commencer par dire d'où je parle. Donc je suis journaliste à France Culture depuis 19 ans, et plus pour très longtemps. Dans moins d'un an, c'est terminé. Je suis journaliste droit et justice. Et pas du tout journaliste d'investigation, ni grand reporter, ni... voilà. Donc c'est très, très différent de ce que vient de nous raconter Jean-Philippe Seppi. Donc, moi, le Rwanda, le génocide des Tutsis, à l'époque, je suis passée à côté. Je ne travaillais pas à France Culture à l'époque. J'étais déjà journaliste, mais en province. Enfin bon, voilà, c'est dommage, c'est comme ça. C'est un constat. Je suis tombée dessus par ma spécialité judiciaire, juridique, avec le procès de Bruxelles en 2001, auquel on m'a envoyée. Je n'ai pas choisi d'y aller, on m'y a envoyée. Et c'est comme ça que j'ai découvert cet événement, alors qui m'a sidérée, scotchée. Et très vite, c'est devenu quelque chose que moi, j'ai considéré comme essentiel. Là, c'est toute la part de subjectivité qui peut y avoir aussi dans les choix que font les journalistes, chacun. Ça dépend aussi de leur rédaction, bien évidemment, parce que toutes les rédactions ne sont pas les mêmes. Il y a des lignes éditoriales. Il se trouve qu'à l'époque, à France Culture, il y avait une liberté absolument totale. À la rédaction, on faisait ce qu'on voulait, à condition que ce soit justifié. Enfin, je dirais que ce soit argumenté et intelligent. Donc, trois mois après ce procès, je me retrouvais à Arusha et à Kigali pour préparer deux magazines d'une heure chacun. Enfin, vraiment, c'était très intéressant de travailler dans ces conditions. Donc, premier contact, c'est un procès. C'est-à-dire, c'est ça qui est étonnant. Je veux dire, j'ai même pas eu, au tout début, j'ai même pas eu le besoin de me documenter, puisque dans un procès, vous arrivez, on vous donne tout. Les historiens sont là, ils racontent. Alors, il y a un petit peu les deux côtés, mais on fait vite la part des choses. Et puis, de toute façon, tous les rôles sont distribués à l'avance. Vous avez les accusés d'un côté, les parties civiles de l'autre, les témoins. Vous savez déjà ce qui va se jouer, même s'il a fallu 8 semaines avant d'avoir le verdict. C'était l'affaire des deux religieuses de Sauvou, de Vincent Desimana et Alfred Iganiro. Donc, moi, je n'ai pas eu à m'interroger sur est-ce qu'il faut prendre le parti de quelqu'un contre quelqu'un d'autre. Enfin, ça ne s'est absolument pas posé comme ça. Celui qui découvre le génocide des Tutsis par les bouquins de Péan, c'est autre chose. Il démarre avec un sérieux handicap au niveau de la compréhension, de l'intellect. Voilà. Donc, alors, France Culture me soutient, m'appuie dans cette démarche de parler de quelque chose qui me semble essentiel et dont personne ou presque ne parle. Et surtout pas tellement la radio, sauf France Culture. C'est quand même un fait dans les médias qui est plutôt ignoré, mis de côté, qui fait peur, qui est trop complexe. Beaucoup plus tard, je me suis rendu compte qu'aussi, il est tellement piégé politiquement que les rédacteurs en chef, les directeurs de rédaction n'ont qu'une trouille, c'est que quelqu'un s'empare du sujet. Parce que comme ça peut mettre en cause des gens encore haut placés ou importants, voilà, il vaut mieux pas. Donc, petit à petit, j'ai découvert, vu que j'ai continué à m'y intéresser, j'ai découvert tout ce qui se cachait derrière ce génocide. D'abord la réalité rwando-rwandaise, c'est-à-dire en 2003, puisque France Culture, nous avions récupéré tous les enregistrements audio du procès, il m'a été demandé de faire fructifier ces 250 heures d'enregistrement. Et j'en ai fait une série de 25 heures qui a été diffusée en 2003. Et ça, alors là j'ai travaillé, là, j'ai bouquiné, j'ai fait des interviews, etc. Donc j'ai acquis un espèce de background solide sur le génocide rwando-rwandais, enfin les aspects rwando-rwandais du génocide. Et puis c'est en faisant cette série que je suis tombée sur un général, le général Queneau, chef d'état-major particulier de François Mitterrand. Et c'est là que j'ai commencé à réaliser que, ouh, mais c'était bizarre, le rôle de la France dans cette histoire. Lui s'attribuait la paternité turquoise et il en était très fier et il me sortait un discours extraordinaire, bien rodé, etc. Tout ça au micro. Puis hors micro, il s'est mis à délirer et à me dire, vous comprenez, c'est Tutsi, c'est terrible. Et les femmes, Tutsi, n'en parlons pas, etc. Et j'ai creusé un peu plus et de plus en plus, jusqu'au jour où je suis tombée sur Thierry Pregnaud. Donc un sous-officier de Turquoise, un gendarme du GIGN qui a participé à l'opération Turquoise. Et c'est comme ça qu'est née l'idée de ce livre, qui au départ ne devait être qu'un livre de témoignage. Cette rencontre avec Thierry, moi, elle me semblait importante, parce que il n'y avait pas eu grand-chose avant. Il y avait eu le bouquin de Saint-Ex, qui avait été très important. Mais des acteurs de l'intérieur, il n'y avait pas grand-chose. Donc, un insider parlait de Turquoise et en des termes peu amènes, finalement, par rapport à la version officielle. Il n'y avait pas que Thierry. J'ai rencontré aussi son cher collègue et ami, qui n'était pas du tout dans la même unité, mais qui était au même endroit. On a décidé ensemble de faire ce bouquin qui, parce qu'il soulevait beaucoup de choses, a fini par tourner à l'enquête. Et c'est de ça que vous vouliez que je parle. Alors, ça porte cette enquête. Donc, au départ, je ne savais pas du tout où j'allais arriver. Et finalement, c'est effectivement un livre de témoignages et une enquête. Et le périmètre est très précis, c'est les 10 premiers jours de Turquoise. C'est en aucun cas tout Turquoise, en aucun cas la situation géopolitique. Non, c'est juste les 10 premiers jours de Turquoise. Et il fallait comprendre essentiellement Bicécéro. Pourquoi il y avait cette espèce de truc extraordinaire qu'on découvre Bicécéro 2 fois. En général, une découverte, c'est 1 fois. À chaque fois, c'est des militaires. J'ai compris que c'était des militaires de groupements, de détachements différents, qui ne communiquaient pas du tout entre eux et qui ne savaient pas ce que faisaient les autres. Que Turquoise, c'est très intéressant. Enfin, la chose militaire, je n'y connaissais absolument rien. Donc, j'ai découvert qu'une opération militaire, mais ça, j'apprendrai rien à pas mal de monde, mais c'est complètement cloisonné et la communication, elle n'est jamais horizontale, elle est toujours verticale. Mais pour moi, c'était une découverte. Thierry et Philippe ne connaissaient que ce qu'ils avaient fait. Et l'enquête, c'est justement ce qui a permis d'élargir à l'ensemble du dispositif turquoise à ce moment-là. Et donc, c'est là que je me suis mise à rencontrer aussi des généraux, des colonels, des capitaines, etc. Et alors, avec difficulté, parce qu'il y en a plein qui n'ont pas voulu me voir. Bon, malgré tout, j'étais une femme de France Culture avec un joli nom. Donc, à l'armée, ça marche. Donc, assez naïvement, Hogar, La Fourcade, Tauzin, les premières fois, m'ont balancé beaucoup, beaucoup de choses au micro. Je veux dire, c'est même passé à la radio avant de se retrouver dans mon bouquin des années après. Hein. Donc, puis après, ils se sont dit, oh là là, mais celle-là, elle est dangereuse. Donc, on va arrêter de la voir. Mais, bizarrement, j'ai quand même réussi à copiner un peu avec Tauzin, qui est, d'une certaine manière, un des pires, mais qui est aussi un type extrêmement humain, malgré tout, bizarrement. Enfin, c'est un peu surréaliste, ce que je dis, mais voilà, c'est comme ça, c'est bizarre. Donc, je n'ai pas pu voir les acteurs principaux, c'est-à-dire Gillier, qui est aujourd'hui vice-amiral d'escadre et qui est au ministère des Affaires étrangères, directeur de la sécurité militaire, enfin, je ne sais pas trop quoi, un truc très important, géopolitique, tout ce qui concerne le terrorisme passe par lui. Bon. Gillier, commandeur de la Légion d'honneur, enfin, je veux dire, il était à l'époque capitaine de frégate, donc ce n'était pas un très gros officier, très grand officier, je ne sais pas comment dire, mais là, maintenant, c'est vraiment une des premières têtes militaires. Donc, je n'ai pas vu Gillier, je n'ai pas vu Rosier, qui était quand même le patron opérationnel de Turquoise au Rwanda. Je n'ai pas vu, malheureusement, non plus Diego, c'est son surnom, son alias, qui est en fait Duval, qui est celui qui a découvert avec notamment Patrick de Saint-Exupéry et une dizaine d'hommes, Bicicero la première fois. Donc l'idée, c'était quand même de comprendre comment ça se fait qu'on n'ait rien fait après la première fois et qu'on ait enfin agi après la deuxième et qu'entre les deux, trois jours, il y a eu au moins 1000 morts pour arriver finalement à 1000 survivants, alors qu'initialement, et là on était presque à la fin du génocide, alors qu'initialement il y avait quand même 50 000 Tutsis qui s'étaient réfugiés sur les collines de Bicicero. Alors, bon, j'ai lu beaucoup, j'ai vu beaucoup de militaires, j'ai vu des diplomates, j'ai vu quelques hommes politiques, mais qui sont tous très très fuyants, y compris M. Cazeneuve. Il y a beaucoup de off, mais qu'on peut en partie restituer. J'ai vu un officier qui a accepté de m'en dire vraiment beaucoup. J'ai vu le dossier d'instruction, puisqu'il y avait eu une plainte devant le tribunal aux armées de Paris, qui est maintenant au pôle génocide. Il n'y a toujours pas de mise en examen, d'ailleurs. La plainte, elle date de 2005, ça fait un moment maintenant. Mais il paraît que ça avance. Donc, à chaque fois que j'avais un témoignage au Rwanda ou en France, j'essayais de recouper. Par exemple, il y avait une histoire... Je ne sais pas si je suis trop longue. D'accord. C'est un épisode que j'ai découvert un peu par hasard, parce que, bien évidemment, les journalistes, on ne sait pas tout. Il faut chercher, et parfois on trouve, parfois on ne trouve pas. À un moment, j'ai découvert qu'il y avait un frère mariste qui était mort à Savé, près de Boutaré, et dont on disait qu'il avait été tué par le FPR. Mais en fait, il était accompagné par des militaires français. Ça me semblait bizarre. Mais je suis allée à Boutaré. Je suis allée voir. Puis j'ai essayé de rencontrer des gens qui avaient plus ou moins su. Hein. Et je suis tombée sur un frère mariste rwandais qui avait été missionné par l'instance la plus haute, je ne sais pas comment ça s'appelle, à Rome, de leur ordre pour aller enquêter après la mort du frère Magnan. Et donc... C'est marrant d'aller sur le terrain avec le gars qui était là pour faire lui-même l'enquête interne. Donc, à chaque fois, j'essaye de tout recouper. Et c'est ça, d'une certaine manière, je pense, qui m'a permis d'affirmer un certain nombre de choses et qui a surtout permis qu'on ne m'attaque pas en diffamation. Bon, j'ai peut-être... alors, je n'ai pas voulu jouer le rôle de procureur, accusé, etc. Mais enfin, quand même, je donne des noms... Il y a peut-être des moments où j'y vais pas avec le dos de la cuillère, c'est-à-dire quand vous voyez sur PV d'audition que le général Rosier ment effrontément, bah, je veux dire, c'est pas compliqué de dire « il ment ». S'il n'y a pas de procès en diffamation, c'est que oui, il ment. Voilà. Donc, alors, donc, ce que j'ai affirmé, c'est que ça, c'est une évidence. Turquoise n'a jamais été fait pour sauver des Tutsis, mais plutôt pour offrir des portes de sortie aux autorités Hutus, aux militaires Hutus, aux grands interahamwés Hutus. Après, dans la zone turquoise, qui était une sorte de zone libre, libre du FPR, ou zone occupée, comme vous voulez, territoire occupé par la France, c'était un refuge, entre guillemets, pour tous les Hutus qui se déplaçaient. Est-ce qu'ils étaient vraiment menacés par le FPR ? J'ai jamais voulu entrer dans les bisbilles politiques. Ça ne m'intéresse pas. C'est pas ça mon projet, mon sujet. L'histoire peut être conflictuelle. J'ai quand même écrit, je ne l'ai pas écrit en gros et je n'ai pas consacré un chapitre. Certainement, il y a eu des massacres commis par le FPR, mais en aucun cas, je ne peux parler de génocide commis par le FPR. Et de toute façon, je ne suis pas là pour ça. Mon sujet, c'est le génocide des Tutsis. Alors, c'est peut-être un peu limité, mais on a le droit de choisir son sujet. Alors, donc, Turquoise n'était pas fait pour sauver des Tutsis. C'est vrai aussi, j'en ai confirmation, je parle des 10 premiers jours de Turquoise, en tout cas les 5 ou 6 premiers jours de Turquoise, c'était une catastrophe logistique. Ils sont a posteriori très fiers d'avoir réussi à déplacer toute une armée avec beaucoup de matériel en quelques jours, etc. Parce que c'est vrai que ça a été très très court, mais n'empêche que ça a drôlement cafouillé au début. Et donc, c'est vrai que pour intervenir à Bicécéro le 27 juin, Diego, il y est allé avec des véhicules d'emprunt, il a emprunté aux bonnes sœurs, de quoi monter à Bicécéro. Et bien évidemment, dans ces conditions, il ne pouvait ramener personne. Et ils n'étaient pas nombreux, et ils n'avaient que leurs armes personnelles, ils n'avaient pas plus que leurs armes personnelles, ces gens. Ils avaient été héliportés, hein, je veux dire, dans des hélicos de transport d'hommes, on ne transporte pas des jeeps, et on ne transporte pas non plus des cargaisons d'armes. Donc ça, c'est une réalité. Mais Turquoise avait aussi mieux à faire au nord à aller chercher une vingtaine de Blancs, une vingtaine de Français et peut-être autres qui étaient clandestinement présents au Rwanda. On ne sait pas depuis combien de temps. Qu'est-ce qu'ils y faisaient ? Est-ce que c'était des mercenaires, des civils, des militaires ? Est-ce que c'était seulement des sonnettes ? Bon, il fallait aller les exfiltrer. Et donc, beaucoup de moyens étaient concentrés sur cette opération au nord, alors que tous les journalistes étaient concentrés au sud, là où on les attirait, où l'armée les attirait. Donc, je veux dire, sur le moment, je pense que personne ne pouvait être conscient de ça, aucun journaliste ne pouvait être conscient de ça, mais n'empêche qu'a posteriori, c'est ce qu'on peut découvrir. Alors, tout ça, bien sûr, est inavouable, reste inavouable. Mitterrand est mort, mais les mannes de Mitterrand sont encore quelque chose d'extrêmement important. Tout le PS marche derrière, par exemple, M. Védrine, secrétaire général de l'Élysée. Ce matin, à la radio, j'ai entendu que Jouyet était aux commandes du pays parce que Hollande partait pour 10 jours en Australie. C'est marrant, le secrétaire général de l'Élysée, et ben voilà, c'est lui qui prend le relais quand le chef d'État n'est pas là. Donc, le chef d'État, à l'époque, Mitterrand, il était là, mais il était très, 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 très malade. Bon, enfin, alors, Védrine, Juppé, Léotard, là, il y avait une question sur Juppé tout à l'heure. Est-ce que, oui, forcément, il n'aime pas trop qu'on parle de ça, parce que c'est une tâche, même si il n'est pas à l'origine de tout, il est arrivé en mi-93. Voilà, ce n'est pas lui l'initiateur de toute cette politique. Donc, on est face à quoi quand on est journaliste et qu'on enquête là-dessus ? D'abord, on est face à une méfiance colossale de la part de certaines personnes qui vous tiennent à distance, qui vous dénigrent. Il y en a un très important dont je viens de parler. Lequel ? Qui m'appelle cette folle de Lord Vulpian. Voilà. Donc, on est face à des gens qui font profession de négationnisme. Non pas de négationnisme du génocide, mais de négationnisme du rôle de leur rôle. Même pas le rôle de la France, de leur rôle dans le génocide. Pas dans le génocide, dans l'implication de la France au Rwanda à l'époque. Donc, est-ce qu'on est face à une raison d'État? Une raison d'État privatisée par ces gens-là, qui est donc une des raisons d'État. Et il reste des choses à chercher, à trouver. Et je voudrais juste évoquer l'affaire d'Ido Maillère, une seconde, deux gendarmes français, la femme de l'un d'entre eux, assassinée le 7 ou le 8 avril. Moi, je penche plutôt pour le 8 avril. Jamais la justice n'a levé le petit doigt. Ces gens étaient en mission, en service. Ils sont morts pour la France, au Rwanda. Les familles ont subi des pressions pour qu'elles ne se plaignent pas, qu'elles ne portent pas plainte, qu'elles se taisent. On est 20 ans après. Moi, je les vois souvent. Il n'y a toujours rien. Voilà, ça reste un mystère. Est-ce qu'ils ont vu ou su ou entendu des choses qu'ils n'auraient pas dû entendre? Est-ce que ça a un lien avec l'attentat? Bien évidemment, on peut l'imaginer. Voilà.
Bien, merci beaucoup. Alors, c'est un témoignage, je pense, qui est précieux par l'explicitation de votre démarche. Une démarche qui a permis de récolter, alors bien sûr, des témoignages, qui sont importants, un grand nombre de documents, qui aboutit à un certain nombre de conclusions que vous avez présentées rapidement aujourd'hui. Alors, hier, on parlait du rôle des historiens ou de l'effacement des historiens quant à la question, justement, du rôle de la France ou de l'implication française. Je pense que justement, vous avez révélé tout un tas de documents et témoignages qui mériteraient aussi peut-être d'être travaillés avec une démarche qui serait peut-être un peu différente de la vôtre. Et voilà, on peut en appeler justement aux jeunes chercheurs qui travaillent sur ces sujets à s'emparer de cette matière. Et puis, il y a aussi des matières qui, pour l'instant, ont peu préoccupé en fait les historiens ou les chercheurs plus largement et qui viennent parfois corroborer les apports que vous venez de nous présenter. Je pense notamment à toutes les images qui ont été filmées par l'armée, les 50 heures d'images de l'opération Turquoise. C'est accessible à l'ECPAD, hein, l'établissement cinématographique de production audiovisuelle. Nathan, tu les as vus un peu. Moi, j'ai travaillé dessus cet été. Et ça confirme notamment l'état d'esprit dans lequel étaient les militaires français sur le terrain. Lorsqu'ils enquêtent, ils sont perdus. C'est-à-dire que pour eux, les agresseurs, c'est clairement le FPR. Et ça se voit dans la manière dont ils enquêtent sur le terrain et aux questions qu'ils posent, en fait. Lorsqu'ils vont dans les différents villages, voilà, ils mènent des enquêtes et systématiquement, l'orientation des questionnements révèle que finalement, pour eux, la menace n'est pas la menace des génocidaires, des miliciens. La menace, c'est plutôt la menace de l'attaque du FPR. Donc forcément, leurs enquêtes, elles vont finir par aboutir, mais il va falloir qu'ils déconstruisent d'abord ce qui est en train de se produire sur le terrain. Et je ne sais pas, mais je pense que dans les 10 premiers jours, ça ressort aussi de ce que vous avez pu examiner.
Ils ont du mal à comprendre, là, les militaires. Ils ne comprennent pas tout de suite. Par exemple, Thierry et Philippe, ils ont compris qu'on leur racontait des bobards, que leur hiérarchie leur racontait des bobards. Ils ont compris ça à Bicécéro. Ils se sont dit, oh là là, mais ces gens dont on nous dit, dont nos chefs nous disent que ce sont des soldats FPR armés jusqu'aux dents, ces gens-là sont des gens qui sont l'ombre d'eux-mêmes, qui ont... Voilà, qui viennent d'être traqués pendant 3 mois, qui survivent péniblement, qui sont dans un état lamentable. Donc voilà, ils réalisent qu'ils se sont fait avoir par leur hiérarchie. Mais ils sont vraiment une poignée, ces gens-là. Une poignée, très très peu. Il y avait en tout 2500 militaires dans Turquoise, 2000 Français, je crois, et la moitié à l'arrière, à Bukavu et surtout à Goma, et la moitié sur le terrain. Et au bout d'un moment, leur boulot, de toute façon, c'était uniquement de garder des camps, après d'acheminer les gens, les Tutsis qui étaient réfugiés dans des camps, soit vers une zone FPR. Certains sont quand même partis au Congo, au Zaïre. Voilà, je sais pas, après, je ne sais même pas ce qu'ils faisaient, quoi. Ils gardaient les frontières de la zone turquoise. Soi-disant, ça ne devait pas être militarisé, on ne devait pas tirer sur le FPR, mais on tirait quand même sur le FPR. Par exemple, je sais que Gillier a donné l'ordre de tirer sur le FPR. Ils ont essayé de tendre une embuscade à des gens du FPR qui s'infiltraient de nuit dans la zone turquoise. Donc, voilà. Donc, les militaires français ont été abusés. Et je pense que le général Lafourcade, était et est encore d'une grande naïveté. Il n'arrive pas à se dire qu'il s'est fait avoir, qu'il s'est fait enfumer. Et donc, il s'accroche à sa version. C'est pas lui le plus cynique de tous, évidemment. Je veux dire, il a obéi aux ordres. Les ordres, ils sont donnés par qui ? Par les politiques. Et les politiques, eux, par contre, ils ne répondent pas. Il n'y a rien qui vise les politiques. Il y a une procédure contre des militaires, mais il n'y a aucune procédure judiciaire contre des politiques.
Bien, on va laisser la parole à la salle pour une dizaine de minutes, un petit quart d'heure d'échange et de débat.
Bonjour. J'ai deux questions précises. La première, ce sera une question sur le devoir de mémoire. Alors, je me présente, je suis Thierry Rouault, bibliothécaire à l'Université Paris 7, auteur d'une thèse sur Édouard Drummond et ses héritiers. Donc, ma question, c'est, vous vous souvenez, en 1945, après la découverte de la Shoah, tout le monde s'accordait à dire plus jamais ça. Donc, il y a eu le procès de Nuremberg, la création de l'ONU, et pourtant, 50 ans après, le génocide au Rwanda. Alors, vous qui avez témoigné, prouvé, montré, peut-être même risqué votre vie en allant au Rwanda, est-ce que vous êtes posé la question que malgré tous vos efforts, malgré votre travail remarquable, il pourrait y avoir un jour un autre génocide ? Et quand vous vous posez cette question, qu'est-ce que vous ressentez ? Ma deuxième question, c'est est-ce qu'il existe des éléments tangibles prouvant que derrière l'assassinat du président Habyarimana, il y a Baril, et derrière Baril, il y a Mitterrand. Est-ce qu'elles existent, ces preuves ? Est-ce qu'on les trouvera un jour ? Et il me semble qu'il y avait des Français dans l'avion du président assassiné. Pourquoi les familles n'ont jamais porté plainte ? Merci.
Merci. On va prendre une série de questions, et puis ensuite, nos deux invités répondront.
Je suis Bruce Clark. J'ai une question pour Jean-Philippe Seppi, parce que vous avez évoqué un travail très, très scientifique sur le terrain au moment de votre arrivée au Rwanda. Et donc je vous félicite pour le travail. Mais ma question, c'est assez précise. Est-ce que vous avez remarqué qu'il y avait d'autres journalistes sur le terrain à ce moment-là qui faisaient un travail beaucoup moins scientifique et peut-être beaucoup plus à charge dans un certain sens ? Et en fait, derrière cette question est l'évocation de Jean-Hélène, justement parce que vous avez dit que vous étiez sur le terrain avec Jean-Hélène. Et si je me rappelle bien de ses articles dans Le Monde, il était pigiste pour le Monde à ce moment-là, si je ne me trompe pas. Il n'a jamais fait mention du génocide, ça c'est certain, mais surtout, il a confondu victime et bourreau systématiquement dans la langue de ses articles. Et après, enfin bon, juste une petite anecdote beaucoup plus personnelle, enfin anecdote un peu personnelle, une réflexion personnelle, c'est que j'ai connu une autre journaliste qui était sur le terrain avec lui à ce moment-là au Rwanda, qui me disait qu'elle avait travaillé avec lui un petit peu, et la seule chose qui l'intéressait et qui l'obsédait presque était d'accuser l'FBI d'avoir commis des massacres. Donc, je cite Jean-Hélène comme exemple, mais pas comme individu. Mais donc, la question, c'est est-ce qu'il y avait beaucoup ou un certain nombre de journalistes que vous avez sentis sur le terrain qui allaient dans un sens seulement ?
Toujours Raphaël Doridan. C'est juste une remarque à propos d'Hubert Védrine. Effectivement, Hubert Védrine nie l'implication de l'État français dans le génocide. J'utiliserai pas personnellement le vocable négationnisme là, parce que ça introduit de la confusion. Mais pour nier cette implication, il utilise des arguments négationnistes qui sont très exactement ceux des accusés d'Arusha, de Bagosora et des autres militaires. Je les détaille pas ici, mais c'est quand même important de noter ça, c'est qu'on utilise le discours du négationnisme. Certains responsables français de l'époque utilisent le discours du négationnisme pour tâcher de faire oublier, de disculper, de tout ce qu'on voudra comme vocable, les responsabilités de l'État français. Et à propos de l'écriture de l'histoire, devant la commission de la défense de l'Assemblée nationale, M. Védrine a reconnu implicitement que les livraisons d'armes par l'État français se sont poursuivies après le début du génocide. à la question qui a été posée par un député. Je vous conseille d'aller encore rapidement sur Internet voir la vidéo, parce qu'à partir de février 2015, elle n'y sera plus. Et ce que nous trouverons, c'est la transcription faite par les services de l'Assemblée nationale. Et la transcription, n'étant pas un verbatim, gomme cet aveu. Donc il faut que vous alliez voir le texte écrit et il faut que vous alliez voir la vidéo. Et après, à vous de voir. Pour moi, clairement, M. Védrine implicitement reconnaît les livraisons d'armes. M. Védrine après l'a nié sur le site de l'Institut François Mitterrand. Mais pour le matériau des historiens de l'avenir, c'est important de télécharger cette vidéo. Parce que là, vous voyez bien la question et les réponses de M. Védrine.
Bien, merci. Je vous propose une première réaction. Jean-Philippe, peut-être
Oui, bon, il y a pas mal de questions. Je vais essayer d'être court. D'abord, est-ce que peut-être j'ai observé des confrères qui montaient des dossiers à charge? Très honnêtement, j'avais vraiment d'autres soucis à ce moment-là. Ce que je peux vous confirmer, c'est qu'il y a des confrères qui travaillent très mal. J'avais beaucoup de respect pour mes confrères américains. Je me suis trouvé à Bujumbura avec des gens de Newsweek qui ne parlaient pas un mot de français et qui m'ont demandé de les aider. Tout ce qui les intéressait, c'était de publier un dossier photo avec des légendes. Ils n'étaient absolument pas intéressés à, dans le fond, faire un dossier tout à fait complet. Donc, incompétence, oui. Méconnaissance, oui, certainement. En ce qui concerne Jean Hélène, je vais être extrêmement prudent parce que c'était un ami et j'ai beaucoup aimé Jean Hélène. Ce qu'il faut dire, c'est que peut-être étant suisse, j'étais un petit peu épargné par ce débat franco-français, d'une part. D'autre part, j'étais basé à Nairobi, ce qui fait que, en gros, je dois vous dire que je ne lisais pas Le Monde. Je recevais mes articles de Libération. Troisièmement, peut-être à décharge de Jean Hélène, je crois peut-être qu'on ne s'est pas bien rendu compte des pressions qu'il subissait sur place. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire de se trouver sur des barricades. Et en fonction du papier que vous avez livré à RFI, que les gens écoutent directement sur les barricades, soit on met des drapeaux français, soit on arrête les voitures et on demande si Jean Hélène se cache dans la voiture en agitant des machettes. C'était un tout petit bonhomme, Jean Hélène, hein, pas très fort, pas un bagarreur du tout. Et je pense que si vous voulez, il y a eu cette pression-là. Deuxièmement, il y a eu la pression effectivement de travailler pour un journal qui, dans le fond, dès qu'un papier était envoyé, broyait ce qui était dit, moulinait ce qui était dit au tamis des fronts. Et je pense qu'il était très conscient de ça. Troisièmement, je pense que ce qui nous a différenciés, lui et moi, c'est que lui était en quelque sorte blasé. C'est-à-dire qu'il avait vécu le Burundi. Nous sommes rentrés ensemble au Rwanda et j'ai pas eu la même réaction que lui au niveau du ressenti. Moi, je n'avais pas été au Burundi précédemment. J'ai couvert d'autres massacres en Angola, en Irak, à Halabja, etc. Mais je ne connaissais pas cette situation-là. Pour moi, il n'était pas courant de voir des piles de cadavres dans une rue. Jean les avait vus au Burundi et je pense que, en effet, intimement, il a longtemps pensé que ce qui se passait au Rwanda ressemblait à ce qui se passait au Burundi. Est-ce qu'on a appelé ce qui se passait au Burundi un génocide? Honnêtement, je ne veux pas m'engager sur ce terrain-là. Mais il y avait dans le fond un effet un peu blasé. C'est horrible de le dire. Et je pense que ça a pu teinter en partie ces articles et induire une espèce peut-être d'autocensure et de prudence excessive. Enfin, peut-être au monsieur qui pose une double question sur le devoir de mémoire ainsi que trouvera-t-on un jour la vérité sur le crash de l'avion ? Moi, je suis quelqu'un d'extraordinairement pragmatique, étant producteur de télévision, et j'ai envie de vous dire que le vrai problème, c'est d'abord un problème de moyens. Aussi bien pour le devoir de mémoire, je suis impressionné de comment la communauté juive israélite a réussi à faire perdurer la mémoire de l'Holocauste. Je suis très impressionné du travail que fait le musée de l'Holocauste à Washington, par exemple, où vous avez des journalistes d'investigation, des historiens qui travaillent constamment pour entretenir cette mémoire historique, qui, dans le fond, ont adopté également les victimes d'autres génocides, comme les Rwandais. Et c'est à eux, par exemple, c'est au musée de l'Holocauste qu'on doit une recherche très profonde sur ce qui s'est passé au Rwanda également. Et là, en effet, l'entretien de ce devoir de mémoire demande des moyens, demande de l'argent, demande des lobbyistes, demande de commissionner des historiens, demande de faire des commémorations. Et je ne sais pas si les Rwandais, le Rwanda, ont ces moyens-là. Également, ce qui concerne la recherche de la vérité, je peux vous dire que même 20 ans après, j'ai été contacté par Arte il y a 3 ans de cela, pour monter un 90 minutes sur le crash de l'avion. Ils ont estimé que j'étais en mesure de le faire. eh bien, nous n'avons pas trouvé les moyens pour le faire, moyens en temps, moyens humains, moitié en argent, moyens en argent également. Et finalement, l'histoire ne s'est pas faite. Et je pense que toute vérité, on peut la trouver. Je pense que la vérité existe sur le crash de l'avion. Il faut simplement de vrais bons moyens, à savoir les personnes qui peuvent le faire, qui savent le faire, un peu d'argent, du temps. Ça, c'est des enquêtes qui peuvent prendre 2 à 3 ans en journalisme. Voilà, c'est un petit peu ce que j'ai envie de répondre. Il faut continuer à se battre également pour des moyens financiers, des moyens en hommes.
Laure, sur les 3 questions, sur la remarque peut-être.
Alors, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit là à l'instant, moi je crois que la communauté rwandaise en France n'a pas les moyens d'entretenir la mémoire. Elle a même des difficultés à avoir accès aux personnes qui peuvent le faire, aux décideurs, aux politiques, aux financiers. C'est une toute petite communauté. Il y a des gens qui se battent pour ça, hein. Je pense à Marcel Cabanda, mais vraiment c'est difficile, quoi. Il y a très très peu de relais de la part des Français. Je veux dire, les Français ne se sont toujours pas appropriés cette histoire. Ils auraient pu, enfin il y en a qui se sont appropriés, mais pas beaucoup. Et bon, alors il y a un mieux là, un petit mieux, c'est une stèle au Père Lachaise, voilà, il y a quelques jours. Mais c'est vraiment très timide. Mais en même temps, peut-être que 20 ans, c'est le temps qu'il faut pour que les choses commencent à démarrer. Parce que la Shoah en France, on a découvert ça, pareil, pas tout de suite. Hein. Paxton, c'était pas en 1945. Donc ça va peut-être commencer. À la fois les travaux d'historiens, à la fois des monuments, des lieux de mémoire, des fondations, des choses comme ça. Oui, c'est vrai, il faut des moyens, il faut de l'influence aussi, il faut des capacités d'influence, de lobbying. Sur l'attentat, alors moi, je ne sais pas qui est derrière. On aimerait tous bien savoir. Je sais que Trévidic a presque fini son instruction. Elle était quasiment clôturée. Il vient de réouvrir parce qu'il y a eu des demandes d'actes qui l'obligent à réouvrir. Ça ne va pas durer très, très longtemps. Alors, il y a il y a pas mal de parties civiles. Hein. Il y a les premières parties civiles, c'était justement des Français. C'était les familles des membres de l'équipage. Les 3 membres de l'équipage sont des Français. C'est eux qui ont saisi la justice les premiers. Ils ont été complètement... la première a été complètement instrumentalisée par Baril. Baril a demandé à la fille du copilote de porter plainte. Elle l'a fait. Et il lui a collé dans les pattes sa propre avocate. Donc, il avait accès à tout, Baril. C'est quand même assez extraordinaire. Et cette avocate, c'était aussi l'avocate d'Agathe, qui s'est jointe à la plainte en 2004. Vraiment, c'est un sac de nœuds, cette histoire. Donc, il faut se rappeler aussi que cette instruction, jusqu'à ce que Trévidic la reprenne, elle était complètement... elle était aux seules mains du juge Bruguière, qui est le juge de la raison d'État. Il n'est pas... Il n'y a pas de pression sur lui. C'est lui-même qui se fait pression tout seul pour aller dans le sens du pouvoir. Quel que soit le pouvoir, il s'en fiche. Voilà, c'était ça son... Je pense, hein, c'est un peu désagréable ce que je dis, ça va peut-être m'attirer des ennuis, mais... Enfin, je l'ai déjà un peu dit à la radio, donc je peux aussi le répéter ici. Voilà, il était... il travaillait un peu... pas du tout pour la justice et la vérité. Alors, Trévidic a cherché à savoir si Baril pouvait être impliqué. Il l'a entendu plusieurs fois et il n'a jamais réussi à avoir quoi que ce soit de tangible. Il a essayé de trouver les hommes qui travaillent avec lui. Apparemment, il n'a même pas réussi à les identifier. Il va forcément conclure par un non-lieu. Il va commencer par rendre un non-lieu en faveur des gens du FPR qui sont mis en examen depuis des années maintenant. Hein, à partir du moment où ils ont été visés par des mandats d'arrêt internationaux, c'était en 2006, lancé par Bruguière. Donc voilà, ça va être ça, ça va se terminer. On va toujours pas savoir. Mais quand même, il y a toujours des tas d'interrogations. On peut penser, par exemple, moi j'ai trouvé dans la thèse, il me semble, hein, je peux me tromper, c'est compliqué, j'ai beaucoup de documentation, je crois que c'était dans la thèse d'Olivier Timonier, je crois que j'ai trouvé un document de 71, un truc confidentiel, un ambassadeur de France au Rwanda qui écrit au Quai d'Orsay en disant « Oh là là, il y a un militaire vachement bien au Rwanda, un jeune lieutenant ou je ne sais pas quoi, Habyarimana, il faudra avoir l'œil sur lui. » Et 2 ans après, qui on retrouve au pouvoir ? Habyarimana. Peut-être que Habyarimana a été mis en place avec le concours de la France, qui était très fréquent à l'époque. Et peut-être que Habyarimana a fini par beaucoup gêner la France, puisqu'il n'appliquait toujours pas les accords d'Arusha, puisque c'était toujours un sac de nœuds, et le mieux, c'était de s'en débarrasser. C'est peut-être pas la France qui l'a fait, mais la France a peut-être appuyé, a peut-être soutenu, a peut-être dit, bah oui, ok, allez-y. Voilà. Comment, de quelle manière, est-ce qu'il y a des écrits, on le saura plus tard, quand tous ces gens seront morts, je pense. Et la dernière... Alors, je voudrais juste répondre à Raphaël. Ok, pour négationniste, ne pas dire négationniste à propos de, par exemple, Hubert Védrine, mais alors négateur. Voilà, négateur.
Bien. Merci beaucoup. On est un peu pris par le temps, donc on est obligé de conclure cette table ronde. On se retrouve à 13h45, si ma mémoire est bonne, pour la suite des débats et des échanges. Donc il y a pas mal de choses qui ont été posées, des conclusions, des interrogations, des hypothèses. Et nous poursuivrons notre réflexion cet après-midi. Voilà, merci beaucoup. Merci à tous.